poursuivons ce service avec la lecture qui nous est proposée en introduction de cette prédication. Et le texte se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et nous lirons au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien conditionné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de nos parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que l'Éternel bénisse sa parole.
Voilà, j'ai le plaisir ce matin de pouvoir accueillir en votre nom à tous le pasteur Gabriel Goléa, qui est président de la Fédération France Nord, qui est venu ce matin avec son épouse et deux de ses fils, ils peuvent se lever. Alors, son épouse s'appelle Gabriela et ses deux filles, c'est Héloïse et Eliette. Voilà. Soyez la bienvenue, les bienvenus parmi nous, que le Seigneur te dirige aussi dans le message que tu as à nous accorder ce matin. Et cet après-midi, puisque vous avez entendu que Gabriel et sa famille sont avec nous aussi cet après-midi pour aussi avoir un échange convivial entre notre Église et les questions que nous pourrions lui adresser au niveau de la Fédération. Voilà. Bienvenue à toi en tout cas.
Merci beaucoup, merci Philippe. Bonjour à tous. Il y a quelques années, je visitais l'église de Marie-Lélise dans le cadre d'une semaine de prière. Vous vous souvenez? Ah oui, moi aussi, j'y garde un très bon souvenir. Et surtout, puisque ça a été rappelé tout à l'heure, un bon souvenir des jeunes qui m'ont fait beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à travers leur talent, leur chant et leur présentation l'après-midi. Donc j'attends avec un peu d'appréhension leurs questions l'après-midi, mais sinon avec beaucoup de joie. J'aurai également la même joie de vous retrouver. Permettez-moi de vous adresser les salutations fraternelles de l'ensemble de l'équipe de la Fédération France Nord. Nous comptons également sur vos prières et votre soutien et je vous remercie d'avance. Et puisque nous sommes encore au début d'une année, je souhaite à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, beaucoup de bénédictions, la joie du Seigneur, la joie que le Seigneur bénisse amplement et avec beaucoup de diversité nos vies à chacun d'entre nous. Nous sommes ensemble ici et je pense que dans notre vie, nous avons au moins deux grandes vérités qui nous animent, qui nous font du bien. La première, c'est d'avoir trouvé quelqu'un. Bien sûr, je commence tout naturellement avec la présence de quelqu'un de cher dans notre vie. Un époux, une épouse, un ami, un voisin, un collègue. Et c'est très important de trouver quelqu'un. Et c'est très important de trouver, bien sûr, quelqu'un dans le sens absolu du terme, son sauveur. Et pour tous ceux qui ont trouvé le sauveur, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est une très grande joie. C'est une bénédiction énorme. Et deuxième réalité qui nous amène, c'est de trouver un groupe qui est composé par des personnes qui ont trouvé leur sauveur. C'est l'Église, c'est le corps du Christ. Ce matin, je vous invite à réfléchir justement sur ce corps qu'on appelle le corps du Christ, l'Église. L'apôtre Paul, je pense que c'est le meilleur expert quand il est question de parler de l'Église. Alors, il y a plusieurs images. Vous vous souvenez, une des images qui vient d'être lue, Éphésiens chapitre 4, c'est celle du corps. Alors, il y a des membres, mais il y a aussi une tête. Et ça, c'est très bien. Et l'apôtre Paul nous dit, mais ne pensez pas que le pied soit plus important que le bras ou vice-versa. Ce qui est important, c'est que chaque membre puisse avoir une bonne corrélation avec la tête, avec le centre de l'activité, de l'action qui est le cerveau. Et ça, c'est Jésus. Il emploie bien sûr d'autres images, comme par exemple l'épouse. L'épouse et son mari, le fameux passage d'Éphésiens chapitre 5, image qui va être reprise par ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19 ou chapitre 21, les noces de l'agneau. C'est une métaphore, c'est une image. Et nous attendons avec joie ce moment festif où l'époux va rencontrer son épouse. C'est quoi l'Église ? Je commençais par une définition qui n'est pas biblique, donc au-delà de ces images qui viennent de la Bible. C'est une définition qui m'a été donnée par quelqu'un en disant « L'Église, c'est la seule institution au monde dont les membres travaillent pour ceux qui ne sont pas des membres de l'institution. » Vous avez remarqué que les grandes entreprises font du bénéfice. J'ai jamais vu une grande entreprise automobile ou que sais-je travailler pour les autres. Bien sûr, les produits, c'est pour tout le monde. Mais d'abord, pour leurs membres, pour leurs salariés, pour ceux qui représentent l'institution. Eh bien, la seule institution au monde qui travaille pour les autres, c'est l'Église. C'est l'Église avec ses membres, avec ses participants qui ont comme objectif d'apporter de l'espoir, de la joie à ceux qui ne font pas forcément partie de leur groupe. Un exemple banal. Vous voyez la voisine, une dame qui a un enfant et qui dit « J'aimerais bien m'absenter un petit peu, mais je ne peux pas laisser mon enfant tout seul. » Et puis l'autre voisine qui lui dit « Mais je peux le garder moi. Si tu as besoin d'y aller, vas-y, je m'occupe de ton enfant. » « Oui, c'est gentil, mais ça ne te dérange pas. » « Oui, oui, je peux le faire. » Une fois, deux fois, mais attends, il faut que je te paye. « Ah non, ce n'est pas un problème, gratuitement. » Et la voisine part, elle suit son programme et un jour elle se pose la question « Mais qui est cette dame qui garde mon enfant sans être payée ?» Et elle apprend que cette dame, c'est quelqu'un de spécial, particulier. Cette dame, elle a une foi, elle a des convictions, elle les partage. Et la voisine commence à s'intéresser. Je fais court, résultat de course. Samedi dernier, nous avons eu la joie, ma famille et moi, d'assister au baptême de cette dame. Parce qu'elle a été interpellée par cette générosité d'une voisine qui peut garder un enfant sans être payée. La seule institution au monde qui travaille pour les autres, c'est l'Église. Et les comment, les caractéristiques, quelques caractéristiques. Quand j'étais gamin, je me posais la question si je serais adventiste, pas adventiste. Enfin, tous les jeunes passent par cette question. Il me semble que c'est inévitable. Et bien sûr, on souhaite avoir une église belle, sans problème. Et je sentais qu'autour de moi, parfois, il y avait des discussions entre les adultes qui ne correspondaient pas avec le message, hein, surtout dans les couloirs. Et j'essayais de me faire une idée de mon église. Comment est-ce qu'elle va être un jour ? Alors, avec mes copains, on a commencé à dire, mais notre église va être comme ça. Attention, nous, on va être différents, on va faire différemment les choses. Et on s'est dit, on va faire une charte. Et tout le monde doit signer notre charte pour participer à notre église. Et dans notre tête de gamin, nous n'avons pas mis Daniel chapitre 2 ou si croire à tel ou tel chapitre de la Bible ou telle ou telle doctrine. Il y avait un seul article, que tout le monde s'entend bien avec tout le monde, signé. Elle est belle, mon église. Je pense que je suis resté avec cet article-là pendant des années. C'est un bel article où tout le monde s'entend, peu importe ce que tu penses, quelles sont tes particularités, l'important c'est d'amener quelque chose de positif au milieu. Tu signes. Le temps est passé et j'aimerais vous demander si l'image, le rêve que j'avais s'est réalisé ou pas. Première caractéristique, une église, d'après la parole de Dieu, doit rester un lieu ouvert, un lieu d'accueil. Ça serait incompatible de dire église égale pas d'accueil. Église froid, église crispation. Non? À l'exemple de Jésus-Christ, quelques exemples en vitesse. Vous vous souvenez de l'épisode de Jean chapitre 4, la femme samaritaine, un épisode extrêmement connu. On voit l'accueil que Jésus lui manifeste. C'est un homme, c'est un juif. il y a tous les ingrédients qui sont là pour ne pas avoir ce dialogue. Quel est le résultat des courses? Finalement, cette femme reconnaît en Jésus comme celui qui est le sauveur. On peut prendre d'autres exemples. Les bergers, les femmes qui n'ont pas une bonne réputation, les enfants, ceux qui ne méritent pas d'être là et ils sont là. Jésus les accueille à tel point que même les disciples sont interpellés par cette manière de faire. Et on l'accuse parfois, on ne le comprend même pas. Sa famille se met des questions sur, se pose des questions sur l'intégralité des facultés de ce frère qui fait autrement. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est Jésus. Là on parle de l'Église. Mais où il y a Jésus? Il y a son Église. C'est une évidence. Imaginez l'horreur d'avoir une Église sans Jésus. Ça serait complètement anormal. Là où il y a Jésus, c'est son Église. Et à l'exemple de Jésus, nous sommes tous invités à avoir la même ouverture, le même accueil, la même disponibilité. Il y a quelque temps, je visitais une église quelque part au nord de l'Europe. C'est une église moderne, avec beaucoup d'activités. Et on nous a traduit. À un moment donné, pendant l'école du sabbat, il y a une dame qui se met debout. Et elle dit, j'ai quelque chose à vous dire. Enfin, elle disait à ses frères et sœurs, enfin à son groupe, j'ai quelque chose à vous dire. Ça fait quelque temps que je fréquente cette église. Je poursuis des études bibliques, mais ça ne me voit pas du tout. Il y a quelque chose qui cloche, ça ne marche pas. Je ne me sens pas digne, j'ai des problèmes dans ma vie, je pense que je ne viendrai plus. Elle annonce ça, elle commence à pleurer. Alors tout le monde l'écoute, bien sûr nous, dans le groupe à côté, avec traduction, avec silence, pour ne pas perturber ce témoignage. Et puis elle se dirige vers la porte, comme si elle voulait partir. Deux personnes l'accompagnent, en douceur, avec tact. Et on voit qu'ils s'arrêtent quelque part, dans une salle. Ils sont restés toute l'école du sabbat, tout le programme ensemble. Et on les voit revenir à la fin du culte, tous les trois. Et elle a changé d'avis. Elle ne partait plus. Je ne connais pas ces personnes qui ont accompagné la dame, mais j'imagine qu'il y avait dans leur cœur une bonté, une générosité, un tact, une manière de faire pour pouvoir changer, faire changer à quelqu'un d'avis. C'est vraiment important. L'Église, c'est ça. C'est l'accueil de tous ceux qui ne méritent pas, de ceux qui ne veulent plus, de ceux qui sont à bout de leurs forces. Et qui ne se sentent peut-être pas dignes, ou au contraire, qui disent que ce n'est pas intéressant. L'Église, c'est un lieu d'accueil, un espace d'ouverture. Deuxièmement, l'Église est importante aux yeux de Dieu. Nous avons dans la Bible plusieurs textes qui montrent, à travers des métaphores, des images, que tout ce que Dieu a sur terre comme précieux, ce sont ses enfants. Je prends quelques exemples d'un livre poétique, le Cantique des Cantiques par exemple. Quand on décrit dans le chapitre 6, cette fille qui symbolise, c'est une métaphore, elle est belle et agréable, mais elle est terrible, comme des troupes sous leur bannière. Le texte se répète, verset 10, toujours dans le même chapitre, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes. C'est une image pour montrer vers où on va quand on accepte de faire partie de cette communauté, de ce groupe des enfants de Dieu. C'est en même temps le projet de Dieu, parce qu'il nous montre la finalité. Par exemple, l'apôtre Paul nous exprime dans le chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens, 5, verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et irréprochable. Dieu a un projet, il amène ce projet vers sa finalité. Un jour, c'est ça, ce qu'on va voir un jour. Il faut y croire, il faut être visionnaire pour ça. Quand on tourne la tête à gauche, à droite, on se dit, mais en nous regardant nous-mêmes, bien sûr, on se dit, mais est-ce que nous faisons partie de cette description? C'est pas un peu idéaliste? C'est pas un peu au-delà de notre espérance? Dieu promet qu'un jour ça sera ça. C'est le projet de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a mis tout en œuvre, tous les moyens pour que ce projet puisse se réaliser. Le meilleur exemple, le plus évident, Dieu a donné son Fils pour le salut de l'humanité. Il a mis en place un plan pour sauver les hommes, pour apporter le salut à l'humanité. Donc, pourquoi ne pas y croire et ne pas laisser ce plan se réaliser jusqu'au bout? C'est le centre de l'attention de Dieu. Vous vous souvenez, il y a un texte dans le livre de Zacharie qui parle dans le chapitre 2, verset 8. Il est un peu terrible hein, comme formulation. Car celui qui vous touche, je vous laisse terminer, touche la prunelle. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait d'avoir une prunelle touchée. Hein. Ceux qui ont eu des accidents peuvent en témoigner, mais c'est l'essentiel. C'est une mise en garde aussi. Dieu protège son équipe, son groupe. Il protège son Église. Attention, il ne faut pas trop s'amuser avec ça. Dieu s'occupe de son Église. Et j'ai une pensée qui vient des écrits d'Ellen White, pour ceux qui ne connaissent pas Ellen White, pour nos amis visiteurs éventuellement. C'est une dame qui a vécu au 19e siècle principalement et nous a laissé des écrits. Et dans ces textes, nous retrouvons une source d'inspiration et de spiritualité qui nous interpelle. Elle disait à un moment donné, en prenant plus ou moins les mêmes idées, elle disait que Dieu a sur terre un seul objet. L'objet le plus précieux, c'est l'Église. Moi, je serais très, je ferais beaucoup d'attention quand il s'agirait de l'Église de Dieu. L'individu, oui, d'accord, on peut avoir des écarts, des erreurs, ça, c'est un risque personnel. Mais toucher à son Église, je réfléchirai deux fois. Dieu s'occupe personnellement de son Église. Et de ce côté-là, je suis rassuré. Si c'est lui qui la protège, nous pouvons être confiants. L'Église appartient à Dieu. C'est son bien. Et ce bien va être préservé jusqu'au jour où nous serons de nouveau avec notre Seigneur dans la gloire. Troisième caractéristique, preuve du réalisme, nous sommes encore sur terre. Sur terre parce qu'il y a le bien et le mal. Et le bien et le mal, nous le constatons tous les jours. C'est la fameuse parabole du Matthieu chapitre 13, vous vous souvenez, où un homme sort un jour dans les champs, il va semer, et puis on lui demande, mais nous avons semé du blé, de la bonne graine, comment ça se fait? Il y a aussi de l'ivraie, des mauvaises herbes. Comment ça s'explique? Et le maître explique, ça c'est un ennemi qui a fait. Au départ il n'y avait pas ça. C'est pas Dieu qui a fait ça. Il y a un ennemi qui a fait ça. C'est une description remplie de réalisme. Il existe sur terre encore le mal. Même si nous sommes idéalistes, même si nous voulons faire le bien, à titre individuel, mais aussi en tant que groupe, en tant qu'église, soyez prévenus, le mal existe. Vous avez remarqué que le mal, d'ailleurs, se propage plus vite que le bien. Aucun jardinier n'a besoin d'arroser ses mauvaises herbes. Pourtant, ce sont les mauvaises herbes qui poussent le plus vite possible. Vous occupez de tout, sauf des mauvaises herbes, mais elles sont là. Pareil pour notre vie à nous. Essayez de faire le bien, vous allez voir le nombre d'obstacles. Je ne veux pas vous décourager, mais si vous avez une très bonne idée, vous allez voir l'obstacle après obstacle. Ce n'est pas possible, on n'a pas le temps, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas. Oh là là, c'est énorme. Et nous sommes en France, vous savez qu'est-ce que ça se passe au niveau société. Il n'y a que du négatif. Il y a des statistiques qui circulent, qui montrent que le français moyen n'est pas très optimiste, hein. Il est mécontent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Par contre, propager une mauvaise idée, vous allez voir les racines que ça prend. Très vite, pas besoin d'arroser. Bon, bien sûr, c'est une image. Mais c'est un réalisme qui nous fait mal. Nous sommes encore sur terre. Et même si le Seigneur est puissant, même si le Seigneur est fort, il faut faire preuve de lucidité. Le combat entre le bien et le mal n'est pas fini. Quatrième caractéristique, l'Église, ses activités, les individus, l'ensemble, tout doit être porté à la gloire de Dieu, Christ au milieu. Nous pouvons avoir de belles chorales, nous pouvons avoir des programmes extraordinaires, nous pouvons avoir des séminaires exceptionnels, des réunions. Mais si Christ n'est pas au milieu, ça ne sert à rien. Vous vous souvenez ce que l'apôtre Paul disait, en oubliant ce qui est derrière moi, je me projette à chaque fois vers l'avenir, vers l'avant, Christ. Il disait aussi, c'est un texte qui vient de son épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 27, il dit, la richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était son seul objectif, vivre pour la gloire de Dieu. Nous sommes invités à avoir toujours ce réflexe, cette disponibilité, cette volonté d'intégrer Dieu dans notre vie, de le laisser agir. Les hommes intelligents et très indépendants, parfois ça me fait peur. Ceux qui réussissent très bien, ceux qui ont des moyens, des capacités, non pas parce que je serais contre tout ce qui est intelligent et tout ce qui est beau, mais trop indépendant et sans Dieu, c'est même risqué pour l'Église. Parfois on dit, mais il vaut mieux accorder son violon comme il faut et préparer la chorale ou l'instrument plutôt que de ne rien faire. Oui, c'est vrai. Mais si on accorde trop bien le violon, si on a beaucoup d'affinités avec la musique, on est trop spécialiste, mais si Christ n'est pas là, ce n'est pas bien non plus. Nous avons besoin d'être performants dans notre vie, nous avons besoin d'avoir des résultats, nous avons besoin d'être de ceux qui pensent que la famille c'est quelque chose d'important, l'école c'est quelque chose d'important, le travail, mais Christ doit être présent partout. Sinon on devient des professionnels, des gens qui réussissent leur vie, qui ont des résultats, mais sans Christ, c'est pas une église. Dieu demande à ce qu'il soit présent et toujours au centre, et toujours présent dans la vie de ses enfants. On voit les biographies qui nous ont influencés, qui nous ont marqués, comme par exemple Martin Luther ou d'autres personnalités qui ont étudié, qui ont eu une gymnastique et aussi une pratique religieuse importante, des personnes qui se sont dédiées, qui ont essayé de tout faire pour laisser Jésus au centre de leur vie. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile à pratiquer, surtout quand on est pressé, quand on a des journées extrêmement remplies, mais Dieu nous rappelle que l'Église, c'est quelque chose où tout se fait à la gloire de Dieu. Toutes les activités, y compris déplacer les chaises, surtout déplacer les chaises. Quelqu'un me disait un jour, oui, mais la partie administrative, il ne faut pas trop mettre des gens préparés, peut-être ce serait, il faut mettre des techniciens, mais non. Surtout dans la partie administrative, il faut mettre des spirituels, parce que tout doit être spirituel, au-delà de la technique. Sinon, on risque de devenir une entreprise bien organisée, article après article, mais c'est une entreprise humaine. Jésus nous rappelle qu'il doit garder sa place. Je m'approche vers la fin, de la fin en disant que, effectivement, Jésus souhaite que notre Église soit accueillante, qu'elle puisse être vraiment le centre de l'attention de Dieu et le centre de notre attention à nous. Que l'Église, même si elle est secouée parfois parce que nous sommes encore sur terre, elle est à la gloire de Dieu et que c'est lui, Jésus, qui doit rester au centre de l'attention. Il y a peu de temps, j'ai lu un article qui m'a interpellé et j'aimerais vous le partager. Cet article était intitulé, si le titre n'était pas accrocheur, je ne l'aurais jamais lu, j'avoue. Le titre était formulé de la manière suivante. Cette année, ne mettez plus Jésus à la première place. Point d'exclamation. Je ne vous dis pas la vitesse avec laquelle je lis l'article. C'est quoi cette hérésie? Mais finalement, je suis devenu hérétique. Et j'aimerais partager avec vous l'essentiel de cet article. L'auteur disait la chose suivante. Ceux qui pensent qu'il faut mettre Jésus à la première place, indirectement, ils disent autre chose. Ils disent qu'il y a d'autres places. Et les places disons, si on doit faire une répartition de notre vie, sont les suivantes. La première place, c'est l'aspect spirituel. La deuxième place qui arrive comme ordre de valeur, c'est la famille. La troisième place, c'est la profession, le métier. Et enfin, éventuellement, quatrième place, ce sont les amis. Ce sont les grands domaines de notre vie. Alors ceux qui disent, dans le domaine spirituel, moi je laisse Jésus à la première place, ils risquent de sous-entendre que pour les autres places, Christ n'est pas présent. C'est du style, j'ai pas eu mon bac, mais au moins je prie. La famille, oh là là, c'est terrible, on ne s'entend pas, moi et ma femme, les enfants, mais au moins j'ai la paix, je suis avec le Seigneur. Les amis, personne ne me connaît dans le voisinage, par contre, j'ai la paix, je suis avec le Seigneur. Ça vous dit quelque chose? On le fait ça souvent. Je me suis laissé interpeller par cet auteur, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Et l'appel, et je m'y identifie moi aussi, ne mettons plus Jésus à la première place, mettons Jésus à toutes les places. Jésus doit régner dans notre famille. Il doit être celui qui dirige nos vies de famille, la relation avec nos enfants, avec nos conjoints. Il doit être toujours à la première place dans la famille. Jésus doit être celui qui dirige mes choix de profession. Je ne peux pas dire, oh, heureusement j'ai le sabbat, mais pour le reste, mon métier, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un engagement. Les choix que je fais, c'est en fonction de la relation que j'ai avec Jésus. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui les ferme parfois. Il faut accepter que ce soit lui qui est au centre de mon choix professionnel. Et bien sûr, les choix des amis, le témoignage, il faut que ce soit toujours lui. Comme disait la Bible, Alpha et Oméga. Et au centre, partout, Dieu doit être présent dans notre vie. C'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Jésus présent dans notre vie. Qu'il puisse nous bénir, nous accompagner, qu'il enrichisse notre vie, qu'il soit au centre de son Église et que nous soyons tous ses serviteurs. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.